Cet épisode vous est présenté avec la fascinante participation de Ben S, Xavier Sureau, Bacchus007, Sébastien Flory, Guy Tanard, Olivier Derez, Christopher Loria, Olivier Enkibrandt, Alain Lomers et Hugues Agius. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 182, un petit peu spécial aujourd'hui puisque c'est un épisode que je vais faire tout seul. Ça arrive de temps en temps, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, qu'on se retrouve juste entre nous, vous et moi, comme ça, sans personne pour venir nous déranger. J'en avais fait quelques-uns, des épisodes en solo, quand les circonstances exceptionnelles m'y obligent. C'était notamment celui du fameux aéroport de Moscou, dont certains d'entre vous se souviendront peut-être. Et aujourd'hui, les circonstances sont mon voyage au Japon, dont je vous parlais déjà depuis quelques temps. Là, je suis arrivé il y a 2 jours à peine. Je suis encore complètement sous l'effet du jet lag assez terrifiant qui m'a empêché de dormir. J'ai dû dormir, je crois, je ne sais pas, peut-être 6 heures en 3 jours. Donc, si jamais je dis des bêtises dans cet épisode, vous vous douterez bien que ça sera à cause de ce décalage horaire qui m'a assassiné, et pas du tout parce que moi-même je pense ces bêtises-là, ça sera des erreurs passagères évidemment. Voilà, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui on va parler de la conférence Build de Microsoft, on va parler de la fin du procès entre Apple et le FBI, on va parler d'e-sport aussi et de plein d'autres choses. Mais avant ça donc, je voudrais quand même vous dire que comme tout se passe bien ici au Japon. Comme c'était prévu, donc nous sommes à Kyoto avec ma femme, on est là pour un petit peu plus de 2 mois. Et bah écoutez, pour le moment ça se passe très très bien. Certains d'entre vous sauront que j'ai vécu au Japon et notamment à Kyoto il y a très longtemps, pendant plusieurs années, et donc je retrouve un petit peu une partie de ce qui fait ce que je suis. C'est pas mes racines, on va pas aller jusque là, mais en tout cas un pays que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Et donc là ça fait 2 jours qu'on est là, et l'ambiance est toujours particulière, il y a toujours des trucs que j'aime beaucoup, des trucs que j'aime un petit peu moins, on va dire. Mais en tout cas, ça se passe pour le moment très très bien, et je suis très heureux de pouvoir venir passer du temps ici et de pouvoir continuer à faire mes émissions comme ça d'ici et continuer à avoir ce contact avec vous. Certains d'entre vous ont suivi déjà le début de mes aventures sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, où je partage des photos de choses qui me semblent intéressantes à partager. Donc, si jamais vous voulez voir de quoi il en retourne, vous pouvez me rejoindre là-dessus et nous rejoindre là-dessus. Donc voilà, bon, comme je le disais, c'est encore un petit peu chaotique parce que là, on est encore dans les méandres du décalage horaire, mais d'ici quelques jours, tout sera revenu à l'état normal. Et en tous les cas, la tech n'attend pas et le rendez-vous tech n'attend pas, donc même en venant d'arriver au Japon, eh bien, on continue à faire les choses comme elles doivent être faites. Et donc, je vais commencer avec cette conférence Build de Microsoft. Comme vous le savez, la conférence Build, c'est vraiment la conférence dédiée aux développeurs. Donc, on n'attend pas forcément de grosses annonces de produits ou de ce genre de choses, mais il y a tout de même des choses qui sont assez intéressantes dont Microsoft parle. Et en l'occurrence, la présentation, comme je le fais toujours, je fais un petit résumé de ce que j'ai pensé de la présentation dans son ensemble. Là, j'ai trouvé que c'était comme toujours chez Microsoft très bien fait, très pro, avec peut-être comme on le sent depuis l'arrivée aux commandes de Satya Nadella, une sorte de sincérité et de comment dire, on dit en anglais, he's relatable. Ça veut dire qu'on le sent assez proche de nous quand même. Et là, ça s'est pas démenti. Il a l'air très authentique comme gars. Donc là, ça a pas été, ça s'est pas démenti. Tout le monde n'était pas forcément aussi authentique. Il y en avait certains dont on avait l'impression qu'ils en rajoutaient un petit peu beaucoup, mais en même temps, c'est, on le sait, pas un exercice facile. Donc on leur excusera, il n'y a rien eu vraiment de catastrophique, quoi. Maintenant, pour ce qui est de ce dont ils ont parlé, il y a quelque chose que je retiens, notamment l'arrivée de la mise à jour, ce qu'ils ont appelé anniversaire de Windows 10, qui arrivera cet été. Le nom de code, c'était la mise à jour Redstone. Et là, c'est une mise à jour qui va ajouter certaines fonctionnalités ou qui va développer certaines fonctionnalités existantes, notamment l'authentification biométrique, ce qui s'appelle Windows Hello, qui va pouvoir être utilisé avec les applications ou pour les sites carrément. Donc on va pouvoir utiliser peut-être pour remplacer des mots de passe ou comme facteur d'authentification supplémentaire Windows Hello, qui est ce système donc biométrique qui vous permet par exemple, je suis désolé si vous entendez un petit peu de bruit, mais là je suis dans la chambre japonaise avec les tatamis, donc je suis assis par terre et je me déplace un petit peu parce que j'ai pas forcément l'habitude d'être assis par terre comme ça pendant longtemps, donc je risque de bouger un petit peu et je bouge le micro avec, donc je suis désolé si ça fait du bruit. Donc comme je le disais, Windows Hello, c'est cette identification biométrique qui reconnaît votre iris ou votre visage ou bien sûr votre empreinte digitale, etc., etc. Donc ça va être utilisable par les développeurs en fait. Donc ça pourra, vous pourrez peut-être bientôt vous connecter à certains de vos sites simplement en mettant votre tête devant la caméra de votre ordinateur. Il y a aussi une amélioration du support du stylet avec plusieurs éléments comme le Ink Center, le centre d'encre, et ils ont montré plusieurs manières dont ils ajoutaient l'utilisation du stylet à Windows. Il y en a une qui m'a paru assez probante, c'était l'utilisation conjointe du stylet et des doigts pour utiliser une règle, comme on en avait vu dans plusieurs applications de ce type. Là, elle est visiblement intégrée à Windows et elle est très bien conçue. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tracer des lignes spécifiques que vous voulez droite ou même vous pouvez l'utiliser pour des guides qui vont vous permettre de tracer des lignes de différents types, en fait, pas seulement des lignes droites. C'était très, très bien fait. Et puis, il y a maintenant toute une partie du store qui est dédiée au stylet. C'est beaucoup plus spécifiquement conçu pour cette utilisation au stylet qui semble se développer, et on le comprend parce que je ne sais pas si, pour ceux d'entre vous qui se souviendront de la dernière conférence Le Web où on était allé, c'était ça devait être il y a 3 ans déjà, et déjà à l'époque on était estomaqué par la qualité du stylet de la Surface, hein, bien sûr c'est de la Surface dont on parlait à l'époque, donc il n'est pas très étonnant qu'il continue à développer cette utilisation. Il y a aussi eu un chapitre assez long sur les Universal Windows Apps dont on a parlé auparavant, un moyen très simple de convertir une application Windows 32, Win32, au modèle Universal Windows App. Ce que ça veut dire pour les utilisateurs normaux, entre guillemets, c'est que les applications anciennes de Windows pourront être utilisées avec les ajouts de sécurité des applications Universal Windows App. Donc, en fait, cette nouvelle plateforme un petit peu plus sécurisée et parfois un petit peu trop fermée, selon certains, même s'ils disent qu'ils continuent à ouvrir ce système, pourra devenir le système universel pour toutes les applications. En tout cas, c'est ce à quoi ils travaillent. Ils ont aussi fait une annonce un petit peu surprenante pour les amis de Linux. Ils ont annoncé que le shell Bash, qui est un outil de gestion de votre... c'est difficile à expliquer, mais en gros, c'est un terminal qui va vous permettre de gérer votre machine, votre ordinateur par ligne de commande. Ce shell qui est propre à Linux est intégré à Windows avec cette nouvelle mise à jour. Et c'est un travail qu'ils ont fait avec Canonical, l'un des développeurs de systèmes d'exploitation Linux, enfin des développeurs, l'un des distributeurs de systèmes d'exploitation Linux historiques. Ils ont travaillé ensemble pour intégrer Bash à Windows. C'est une sorte d'émulation, allez, on va dire d'émulation de Bash, enfin de Linux, de la partie Bash de Linux sous Windows. C'était très surprenant et c'est un outil vraiment, là encore, ce qu'il faut retenir si on comprend pas trop ces histoires de Bash, c'est que c'est encore un appel du pied aux développeurs pour qu'ils continuent à utiliser Windows et qu'ils apprécient l'utilisation de Windows. Il y a aussi la Xbox One qui va avoir Windows 10 version entre guillemets complète pour Xbox One, bien sûr, avec cette version Redstone, donc qui arrive cet été, et l'activation dès aujourd'hui de la fonctionnalité kit de développement de la Xbox One. Donc n'importe quel Xbox One devient un kit de développement pour Xbox One. Il faut savoir que généralement ce type de kit de développement coûte beaucoup plus cher, plusieurs milliers d'euros pour développer sur Xbox One. Là, n'importe quel utilisateur de Xbox One, une machine qui coûte quelques centaines d'euros, peut l'utiliser pour développer directement sur Xbox One. Ce que ça veut dire, c'est que les applications universelles pourront être très facilement testées sur cette machine aussi. Par contre, il faut savoir que, en tant que kit de développement, la Xbox One elle-même a des fonctionnalités limitées. Si on veut vraiment développer des jeux ambitieux sur cette machine, ou même des applications très ambitieuses qui utilisent toute la puissance, etc., il faudra quand même aller vers le kit de développement. Et je parle beaucoup de développeurs, c'est normal, hein, c'est à eux que s'adressait cette conférence, mais on a vraiment entendu une énorme volonté de faire de Windows la plateforme de développement universelle. Alors, on a Windows pour Windows, Windows pour Xbox, etc., mais on a aussi l'idée qu'on peut développer sur Android et sur iOS, pour Android et pour iOS, sur Windows. On se souvient de l'acquisition de Xamarin, qui était l'une des sociétés qui permettait de faire ces choses-là facilement. Je rentre pas dans les détails, mais là, ils ont vraiment insisté sur le fait qu'ils veulent que Windows soit l'endroit où tous les développeurs pourront se sentir à l'aise et voudront développer leurs applications pour n'importe quelle plateforme. Donc ça, c'était assez intéressant à noter. L'autre chose qui était vraiment marquante et vraiment intéressante, c'est ce qu'ils ont appelé le bot framework. Alors là, j'attire votre attention, si vous n'êtes pas un grand fan de Windows, sur ce sujet qui est vraiment en train de monter en popularité dans les cercles tech en général, et pas que pour Windows, et qui risque de devenir une des tendances vraiment marquantes de l'année, de cette année et de l'année prochaine et des années à venir. C'est cette tendance des bots de chat. On l'avait déjà évoqué dans des précédents épisodes du Rendez-vous Tech, mais les outils de chat, en fait, les bots de conversation, en fait, qui s'utilisent dans les outils de chat, dans les applications de chat comme WhatsApp, n'importe quelle application de chat peut vous permettre de communiquer avec un bot. Et c'est une tendance très importante parce que, en fait, c'est une interface utilisateur comme la souris, le bureau sur votre ordinateur, l'écran sur votre smartphone, la conversation avec les bots comme les assistants comme Siri, Cortana, Google, etc. Et bien là, c'est une autre interface utilisateur, entre guillemets, mais de conversation écrite. Et vous pouvez imaginer que si ces bots deviennent vraiment intelligents, ils peuvent tout à fait répondre à des demandes que vous aurez, aussi bien, voire mieux, que n'importe quelle autre interface. Alors bien sûr, ça vient en complément, ça ne va pas forcément tout remplacer, mais vous pouvez imaginer qu'en chat, vous pourrez converser avec le bot de, on va dire au hasard, hein, la pizza est toujours l'exemple qui vient à l'esprit des développeurs, mais si vous chattez avec le bot de, par exemple, Pizza Hut, vous allez pouvoir lui dire « je voudrais ma pizza habituelle pour ce soir 20h30 » et il va savoir de quoi vous parlez, où la livrer, qui facturer, enfin quelle carte facturer, etc. Et bien sûr, contrairement à Siri ou Cortana ou etc., n'importe qui peut créer ce type de bot facilement au niveau technique. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas besoin d'avoir pardon, la reconnaissance vocale et tous ces outils très compliqués à mettre en place. Et justement, c'est une tendance donc qui est en train de prendre énormément d'importance dans le développement et dans les start-up tech ces derniers mois et ces dernières années. Et Microsoft, en fait, et je reviens à la conférence Build, ils sont en train de s'insérer dans tout cet environnement prometteur avec leur bot framework qui leur permet de construire, enfin qui permet à n'importe quel développeur de construire facilement des assistants et des bots dans leurs apps. Alors, ils peuvent intégrer Cortana directement, qui bien sûr a l'interaction vocale, mais pas que ça. Cortana peut servir, comme tous ces assistants virtuels, comme outil de reconnaissance sémantique. Hein, et ils mettent à la disposition des développeurs ces outils-là, tous les outils de serveurs avec Windows Azure, etc., etc., tous les outils qu'ils ont déjà. Il donne des outils aux développeurs pour développer ça dans Skype, etc., etc. Il y a Cortana qui va arriver sur votre écran verrouillé. Enfin, il y a plein de choses au niveau des bots et des assistants virtuels. Microsoft est vraiment en train d'aller à fond dans cette direction. Pas forcément parce qu'ils sont 100% certains que ça va marcher, mais parce que c'est une vraie tendance de fond et que si ça fonctionne, ils veulent déjà s'être insérés comme la solution simple pour les développeurs pour qu'ils n'aient pas à réinventer la roue à chaque fois. Il y a une chose qui était très intéressante dans ce que disait Microsoft à cette conférence, c'est qu'il disait l'idée n'est pas d'avoir l'homme contre la machine. On a souvent ce fantasme, et on en parle dans l'émission régulièrement, ce fantasme de c'est l'homme contre la machine, les robots vont venir nous détruire. Il disait c'est pas l'homme contre la machine, c'est l'homme avec la machine. Et cette distinction est importante à intégrer parce que si on continue à avoir une peur déraisonnée des machines, on risque de prendre du retard, notamment par rapport à l'Asie où les ordinateurs, enfin les robots sont considérés plutôt comme des outils et des compagnons ronds, doux, sympathiques. Et bon, il faut être prudent bien sûr avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, mais il ne faut pas non plus pécher par excès de prudence, on va dire. D'ailleurs, il y a eu un exemple intéressant de bot conversationnel avec l'intelligence artificielle Tay, qui était un outil lancé par Microsoft sur Twitter et sur d'autres outils de conversation, qui était censé émuler une jeune fille, une adolescente en fait, et répondre aux questions que vous lui poserez. Et Lupus76 sur le Reddit, entre autres, sur le Reddit du Rendez-vous Tech, entre autres, nous a mis un lien vers cette histoire qui a fait le tour du web, selon laquelle il y a de nombreux comment dire, en gros Internet a été Internet et ils ont appris à Tay à être raciste, à être aussi offensive au sens malpoli que possible, et donc Microsoft a dû la débrancher assez vite au bout de quelques jours. Ils n'ont pas éludé la chose, ils ont dit effectivement il y a eu quelques problèmes pour le moins, donc c'est un apprentissage qu'on est en train de faire. Hein. Il faut aussi confronter ces outils qu'on développe dans nos labos au monde réel. Et là, c'était un exemple des choses qui marchent pas forcément aussi bien qu'on l'espérerait. Et ils vont apprendre de ça, de cette expérience. Et on l'espère revenir avec des outils de conversation, enfin des bots, qui réussissent à être un petit peu plus résistants à ce type d'attaque, on va dire, sociale dans le monde réel. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. Mais vraiment, à retenir, les bots sont une tendance de fond de cette année, de l'année dernière et de cette année, et ça va continuer a priori. Donc on est en train d'explorer pour voir si ça peut devenir quelque chose de vraiment utile au quotidien. Mais ce qui est important de ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est très facile comme interface. Les sociétés, les développeurs peuvent s'insérer de cette manière dans n'importe quelle autre application. Ils n'ont pas besoin de développer leur propre application. C'est un petit peu ce que disait Microsoft, c'est qu'avec ce bot framework, ils deviennent un petit peu comme le navigateur pour Internet. C'est comme votre navigateur Internet. Ils n'ont pas forcément besoin d'avoir eux leur bot partout. Ils ont un framework qui leur permet d'être le média qui va permettre la construction et la communication entre tous les services. Donc, c'était un petit peu surprenant, mais vraiment une direction très cohérente pour Microsoft dans laquelle aller. Ils ont aussi présenté le lancement en fait du HoloLens, leur lunette de réalité mixte d'hologrammes selon eux, qui est disponible désormais à l'achat pour les développeurs. C'est un outil qui vaut quand même $3000, donc c'est vraiment le début, hein. On se souvient qu'il avait été présenté il y a un an à peine, donc c'est quand même allé relativement vite, on va dire. Entre la première présentation il y a un an et la commercialisation pour les développeurs. Donc, bon, il faut avouer que c'est qu'ils y vont vraiment à fond, hein, c'est pas du vaporware. Mais c'est. Comment dire, je fais pas de secret du fait que je pense que ça soit pas très convaincant pour des utilisations grand public. Il y a toujours ce problème de champ de vision, de fenêtre très réduite dans le champ de vision dans lequel on voit vraiment cette réalité augmentée par rapport aux présentations qu'ils font toujours avec cette impression qui est donnée que les hologrammes, entre guillemets, sont tout autour de nous et qu'on peut les voir partout, alors que tous les gens qui essayent ce HoloLens disent vraiment la fenêtre dans laquelle on peut voir les hologrammes est très réduite dans notre champ de vision. Il y a aussi le problème de... Enfin, bon, il y a tout un tas de problèmes qui sont pas nouveaux, je vais pas tous les répéter. Par contre, on a des gens qui commencent à essayer le produit, qui commencent à être relativement fini. Alors, même si la qualité des images est pas incroyable, la plupart des gens disent... C'est technologiquement très intéressant. Il va falloir attendre de voir vraiment les utilisations. Donc, bon, il est évident qu'il va y avoir des utilisations spécifiques, professionnelles. Pour le grand public, moi, je suis beaucoup moins certain que ça donnera quelque chose de convaincant. Mais désormais, les développeurs les ont entre leurs mains. Ils vont pouvoir commencer à créer des applications pour. Et on verra ce que ça donnera dans les mois et les années à venir. En tout cas, aujourd'hui, le produit existe, il est tout à fait tangible, il est dans nos mains, nous, au sens de la communauté tech. Donc, le pari, comment dire, j'ai jamais douté qu'il réussirait à le produire, ce produit, qu'il réussirait à le mettre dans les mains des développeurs, mais en tout cas, là, ils l'ont fait et ils l'ont fait assez vite. Donc, à ce niveau-là, il faut en tout cas leur donner... les félicitations d'usage, c'est en cours. Une chose par contre qu'on a remarqué et que beaucoup de gens ont fait remarquer, c'est le fait que ils n'ont même pas évoqué le nom de Windows Phone. Ils ont dû mentionner, je crois, une fois en passant Windows Phone. C'est très décevant pour les gens qui croient toujours à la plateforme. Elle ne va nulle part, hein, parce que Windows Phone, c'est toujours Windows 10. Donc, ils continuent le développement joint de Windows 10 qui est disponible sur toutes les plateformes qu'on connaît, de l'ordinateur à la tablette, au téléphone, en passant par la Xbox, c'est le HoloLens par exemple, donc c'est toujours là, mais quand même dans une conférence qui s'adresse aux développeurs, il est peut-être un petit peu décevant, je pense, qu'on n'en parle pas du tout, que ça soit que de manière implicite. Donc voilà, c'est à noter aussi. Donc voilà, une conférence build plutôt intéressante. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup d'autres choses que vous pourrez entendre ici et là sur cette conférence, mais la chose à retenir pour moi, c'est vraiment cette histoire de bot, de conversation, et je suis très curieux de voir où ça va aller à l'avenir. Bon, on enchaîne avec quelque chose d'un petit peu surprenant en fait. Je vais, avant de continuer, déplacer me redéplacer un petit peu parce que mes genoux commencent à me faire mal. C'est pas facile d'être dans une pièce japonaise. Hop, voilà. Et donc, une chose qui m'a un petit peu surpris, et je pense qu'il a surpris beaucoup de monde, c'est le fait que le FBI a totalement abandonné sa demande à Apple de les aider à obtenir les informations de l'iPhone dans l'affaire de l'attaque terroriste de San Bernardino. Alors, ce qui s'est passé, si vous n'avez pas suivi, c'est difficile, mais on ne sait jamais, c'est qu'il y a un groupe, une société qui est spécialisée dans la sécurité informatique, donc qui hack professionnellement les appareils pour diverses raisons, hein. Il y a évidemment un marché pour ça, qui a contacté le FBI et qui leur a dit « Nous avons un moyen de débloquer cet iPhone ». Le FBI a dit au juge qui s'occupait de l'affaire « Bon, attendez un instant, visiblement, il y aurait peut-être un moyen, en fait, ce qui... Moi, je peux pas m'empêcher de ricaner un tout petit peu parce que c'est quand même la chose qu'ils avaient juré, c'est qu'il n'y avait aucun moyen d'obtenir ces informations sans demander à Apple de leur développer un outil spécifique. Mais bon, deux semaines plus tard ou un mois plus tard ou même deux mois plus tard, tout à coup, ils découvrent qu'il y a un moyen. C'est un petit peu... Alors... Bon, bref, je finis l'histoire. Ils ont demandé un délai de 15 jours pour vérifier, pour tester l'affaire. Ils ont constaté que ça fonctionnait, donc ils ont abandonné leur demande à Apple pour créer un outil spécifique. Alors, on peut le voir de différentes manières. D'une part, c'était un petit peu surprenant parce que le FBI a mis tellement d'énergie dans ce procès et politiquement a misé assez gros. Donc, le fait que tout à coup, qu'ils jettent l'éponge, mais qu'ils abandonnent, c'était assez surprenant. Et dans le meilleur des cas, on se dit, bah voilà, ils savaient pas. Ils ont découvert qu'il y avait un moyen. Et dans le meilleur des cas, à mon sens... C'est au moins pas de l'incompétence, mais ils n'ont pas un département assez bien financé ou assez développé, et c'est pas une bonne chose parce que c'est leur travail de savoir si ce genre de choses est possible et de le faire quand ils doivent protéger les gens, hein, c'est leur boulot, c'est de protéger la population. Donc, il faudrait qu'ils sachent s'il est possible de faire ce genre de choses. Dans le pire des cas, et moi, je qui suis un petit peu cynique, c'est comme ça que je le vois, ils se sont rendus compte que politiquement et techniquement, les gens étaient en train de dire, bah non, c'est possible, et en plus, c'est pas forcément une bonne chose, et ils commençaient à perdre la bataille. Donc, ils ont essayé d'enterrer un petit peu l'affaire. Ils ont dit, bon, ok, on oublie, c'est bon, on va pas gagner. Donc, tant pis. En plus, légalement, ça avait pas l'air d'être gagné du tout. Donc, ils ont un petit peu abandonné, et ils ont misé tellement gros là-dessus que moi, ça me paraît être une retraite pas très glorieuse, on va dire. Et James Comey, qui est le directeur du FBI, à mon sens, il va payer les pots cassés parce qu'il a misé trop gros là-dessus. Et alors, ce que je disais un petit peu en plaisantant dans l'émission en anglais que je fais avec mon ami Tom Merritt, le Daily Tech News Show, c'est que je pense que James Comey va quitter le FBI d'ici un an. Parce que c'était une orientation qui a pas payé et c'est trop gros politiquement, ça va pas passer. Si on revient du côté des gens qui sont de bonne, enfin qui pensent que le FBI était de bonne foi, on peut tout à fait se dire que ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était simplement avoir les informations qui étaient dans ce téléphone, et donc ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et voilà, ils voulaient pas plus, donc ils retirent leur demande. C'est tout à leur honneur. Moi, j'y crois moyen, mais c'est possible. À mon sens, c'était plus un coup politique pour commencer à... c'était un cas vraiment qu'il pensait gagnable pour essayer de pousser Apple à les aider à affaiblir le chiffrement de leurs appareils. Mais ce qui est sûr, Alors, d'une part, Apple est pas super content parce que il voudrait savoir, enfin pas super content. C'est le jeu hein, dans le chiffrement. Dans le chiffrement, il y a toujours les outils de chiffrement qui essayent de protéger la plupart des gens et les hackers qui trouvent des failles ou qui réussissent à trouver des moyens pour obtenir les informations tout de même. Et c'est toujours comme ça, c'est le chat et la souris. Ce qui est très important en fait dans le chiffrement, c'est que le chiffrement soit suffisamment fort pour que on ne puisse pas le briser, qu'il ne soit pas trivial de le briser, qu'on ne puisse pas faire ça à la chaîne, que ça soit pas un truc de masse. Et c'est le problème qu'on avait avec l'espionnage de masse en général aux États-Unis et en France, c'est que oui, on comprend qu'il est tout à fait possible d'obtenir ces informations spécifiquement sur un téléphone ou sur quelques téléphones quand on en a besoin. Si on a accès à l'appareil, si on a des puissances de calcul qui sont suffisamment grandes pour accéder à ces choses-là en quelques heures, en quelques jours de calcul, par exemple. Mais on ne veut pas que ça soit possible à faire sur des millions d'appareils en quelques instants, hein, ou sur pour des millions de personnes en quelques instants. C'est ça le gros problème. Apple dit, bah attendez une seconde, faudrait peut-être nous dire de quoi il en retourne pour qu'on puisse. C'est une vulnérabilité que vous avez trouvée finalement. Donc les vulnérabilités, c'est jamais bon. Donc il faudrait qu'on la patche. On ne sait pas si la vulnérabilité a déjà été patchée dans des systèmes d'exploitation iOS plus récents. Il faut pas oublier que cet OS là, enfin cet appareil était sous iOS 7, donc un OS qui avait déjà 2 ans, un petit peu plus maintenant. Donc, bon, ça s'applique pas non plus à tous les téléphones. Il faut avoir le téléphone en sa possession pour pouvoir le faire, visiblement. Donc, là encore, c'est une limitation à la vulnérabilité. Le FBI a déjà annoncé qu'ils allaient aider au déblocage d'autres téléphones dans d'autres affaires. Donc là encore, on revient à cette question, est-ce que c'est juste pour un téléphone ou pour plusieurs téléphones ou... Bref. Toute cette affaire se termine de manière comment dire, c'est pas aussi éclatant qu'on l'aurait imaginé si c'était allé à jusqu'à la Cour suprême. Ce qui est certain par contre, c'est que enfin certain a priori ça n'est que la fin de ce chapitre. N'est-ce pas? C'est cette affaire qui a été résolue, et c'est pour ça que j'en parle maintenant dans les histoires principales et pas en fin d'émission comme je l'ai fait pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois ces derniers temps. Mais cette affaire est résolue. Ce qui est sûr, c'est que ça va revenir la prochaine fois qu'il y aura un problème de ce type-là. On sait qu'Apple et toutes les autres sociétés sont en train de renforcer bien sûr leur sécurité et leur chiffrement, y compris dans le cloud. On sait que le FBI a contacté aussi Google, enfin des organismes de surveillance ont contacté Google pour qu'ils les aident à débloquer leur téléphone, etc., etc. Donc cette bataille continue et a priori, ça ne fait que repousser l'échéance et on aura le même problème qui va se reposer dans quelques mois, quelques années, le plus tard possible, on l'espère. Et il se posera encore plus violemment parce que le chiffrement sera encore meilleur et encore plus sur toute la chaîne, on va dire. On sait qu'Apple travaille en tout cas de plus en plus à ça. Donc voilà, il n'y a pas de réponse satisfaisante, on va dire. C'est toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes questions. Mais en tout cas, les réponses n'arriveront pas avec cette affaire et ce téléphone. Moi, j'ai envie de dire, c'est plutôt tant mieux. Et je pense que soit la chose va être débattue au niveau sociétal, c'est-à-dire au Congrès américain, en France aussi peut-être, et comme le veut Apple et comme le veulent certaines sociétés américaines. D'ailleurs, Satya Nadella, dans la conférence Build de Microsoft, a sans jamais nommer Apple, fait référence à cette question très clairement et a dit lui aussi qu'il préférerait que la chose soit débattue par le Congrès pour qu'on sache ce qu'on en décide au niveau de la société, puisque bien sûr le Congrès congrès représente le peuple. Donc, voilà. On ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Ce qui est sûr, c'est que cette affaire-là se termine vraiment en nœud de boudin, quoi. C'était pas du tout aussi. Et à mon sens, ça c'est mon analyse personnelle, c'est une retraite du FBI qui, comme je le disais, au mieux n'était pas pas bien préparé, pas correctement préparé. Au pire, a senti l'affaire, a senti le roussi dans cette affaire et s'est dit bon bah on abandonne maintenant avant que ça ne devienne encore plus embarrassant pour nous. Bon, je vais prendre un petit peu, je vais boire un petit coup parce que ma gorge commence à sécher. Mine de rien, c'est pas facile de faire ces émissions en solo d'une traite. Et en plus, il y a l'air est un peu sec, donc voilà, j'ai la gorge irritée. Mais donc, je continue tout de même vaillamment avec ce sujet sur l'e-sport et un rapport qui a été remis par des parlementaires à Axel Lemaire il y a une dizaine de jours de ça. Et je l'évoque ici dans le Rendez-vous Tech parce que c'est à mon sens une chose qui a été très bien faite. C'est-à-dire que c'était pendant la... Vous vous souvenez de la consultation publique sur la loi numérique, la loi République numérique. Il y a eu, en fait, une des propositions qui a été particulièrement populaire, qui était la première proposition, qui était d'étudier le cas de l'e-sport et de réguler la chose en dehors du cadre des loteries. Parce que l'e-sport était menacé, je vais y revenir dans un instant. Et en fait, le gouvernement a demandé à Jérôme Durin, qui est un sénateur, et Rudy Sall, qui est un député, de se pencher sur la question et de rendre un rapport avec des suggestions sur la question de l'e-sport. Alors là, c'est vraiment la démocratie qui fonctionne du mieux possible, puisque la question de l'e-sport n'était, que je sache, pas vraiment au programme de la loi République numérique d'Axel Lemaire. Donc, on a la population qui s'est exprimée, les parlementaires qui sont allés faire leur consultation et qui ont vraiment parlé de tout ce que j'ai vu à tous les acteurs de ce domaine de manière hyper satisfaisante, d'après eux, hein, d'après des gens que moi je connais, je respecte. Ils avaient l'air tout à fait positifs par rapport à leurs interactions avec les deux parlementaires. Et donc, les deux parlementaires ont rendu une 10 ou 11 propositions qui semblent aller vraiment dans le bon sens. Ensuite, on verra ce qu'en feront, ce qui passera dans la loi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la légalité des tournois d'e-sport était très floue. C'était toléré, les tournois notamment, mais en réalité, ils auraient dû être considérés comme des loteries parce que on a souvent ce qu'on appelle des cash prizes, donc des prix d'argent. Si on atteint la première place d'un tournoi, ben, on touche telle somme, hein, c'est normal. Sauf que, étant donné qu'il y a une partie de hasard parfois dans la plupart des jeux, souvent il y a une petite partie de hasard plus ou moins grande en fonction des jeux, c'était considéré comme des loteries parce que n'importe quel jeu où il y a une partie de hasard et où on peut gagner de l'argent, c'est considéré comme une loterie. Évidemment, tout le monde sait que des jeux de combat ou des jeux de MOBA ou des jeux de n'importe des jeux de cartes en jeu vidéo, ce ne sont pas des loteries, mais légalement, c'était flou. Il y avait aussi la question des gains des mineurs. Aujourd'hui, enfin, l'une des recommandations, c'est que ces gains soient, il y ait une consignation à la Caisse des dépôts jusqu'à leur majorité. Aujourd'hui, c'était pas encore légiféré. Il y a la question de la publicité. Ces équipes d'e-sport sont comme des équipes de sport classiques. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais il y a des sponsors qui vont avoir leur nom sur leur maillot, par exemple. Eh bien, c'était compliqué pour la retransmission à la télévision, parce que selon le CSA, le fait d'afficher une marque peut peut être considéré comme de la pub déguisée. Il y a une exemption pour les vrais sports, mais pas pour l'e-sport. Donc, c'était compliqué d'avoir une retransmission à la télévision, par exemple, même sur des petites chaînes, parce que on ne pouvait pas, il fallait tout flouter. Alors, bien sûr, ça ne convenait pas aux sponsors, et puis c'était compliqué. Et il y avait, pour le coup, littéralement du flou dans toute cette affaire, ce qui fait que ça empêchait le développement. Là où il n'y a pas de certitude, les gens vont pas forcément y aller parce qu'ils se disent bah, on sait pas comment ça fonctionne, on va pas s'emmerder à lancer le truc. Des acteurs qui sont pas juste des passionnés mais qui peut-être pourraient amener une légitimisation à ce type d'activité, on pense à des chaînes de télé par exemple ou des sponsors un petit peu plus importants, et ben ils vont se dire ouais écoutez vous êtes gentils avec tous vos trucs mais légalement c'est compliqué, on va pas y aller. Il y a aussi des questions de contrat ou de visa. On ne pouvait pas faire venir des athlètes e-sportifs parce qu'ils n'avaient pas vraiment de visa spécifique. Donc, ils vont essayer d'en faire des CDD spécifiques ou des visas spécifiques comme dans le sport. Parce que imaginez un athlète, un e-athlète qui vienne, je ne sais pas moi, de Corée ou du Japon pour rester local pour moi. Si on lui dit il faut venir en France, il vient pas pour du tourisme, il vient pour une compétition, pour travailler. Mais s'il travaille, on sait bien que pour obtenir un visa, il doit demander un visa. Bah c'est compliqué, il y a des histoires de sponsoring, etc. C'est pas facile d'avoir un visa pour quand on est étranger. Mais bien sûr, il voulait pas un vrai travail. C'était juste qu'il venait pour cette compétition. Bref. Tout ça a été très compliqué. On espère que ça va se résoudre grâce à ces propositions. Et dans l'ensemble, ça a l'air d'être plutôt positif parce que tout le monde a l'air de dire que ça va dans le bon sens. À la fois les parlementaires, donc le gouvernement, et les acteurs de la communauté, tout le monde a l'air de tomber d'accord sur ces propositions. Donc, on peut espérer que l'e-sport, qui se développe de toute façon, hein, de manière claire depuis quelques années, qu'il puisse là être clarifié et légitimé et continuer encore plus à se développer. C'est ce qu'on espère en tout cas. On va voir maintenant ce que va effectivement faire le gouvernement. Le rapport ne fait que des propositions. Hein. Il faut le garder à l'esprit. Ce ne sont pas des lois qui sont établies par ce rapport. Mais on se dit qu'a priori, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. On ne sait jamais, mais il n'y a pas de raison. Donc voilà, on verra comment ça se passe dans les années à venir, là encore. Et je remercie Ancelito et Emric Air qui, sur le subreddit du Rendez-vous Tech, ont fait état de différents articles sur le sujet. Donc ça vous a intéressé et passionné. Et comme ça m'a moi aussi intéressé et passionné, on s'est retrouvé là-dessus. Voilà pour l'e-sport et donc pour notre partie principale. Je voudrais, avant de passer à nos news et rumeurs, bien sûr, comme toujours, excusez-moi si on entend des petits bruits de micro, comme toujours, remercier tous ceux qui viennent sur le Patreon du Rendez-vous Tech, le Patreon du Rendez-vous Tech, et qui soutiennent cette émission. Je ne vais pas en faire des tonnes, vous savez de quoi il s'agit. Si vous estimez que l'émission vous apporte quelque chose, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. En l'occurrence, je vais remercier du plus profond de mon cœur Fred Close, Fabrice Bailly, Gilles Bourgeois, Pierre Cra, pardon, Clem Ronan Tano, Guillaume Brun, Xavier Didin, Balatin et Pierre Ernst. Merci à vous tous. Je suis incroyablement reconnaissant, comme je le dis toujours. C'est encore plus le cas aujourd'hui parce que c'est grâce à vous, en fait, que j'ai pu passer de mon travail de mon travail d'employé à cet entrepreneuriat un petit peu fou qui me permet, avec un ordinateur, un micro et beaucoup d'huile de coude et de volonté et de passion, de travailler de n'importe où. Et c'est grâce à vous que je peux travailler aujourd'hui dans cette petite pièce japonaise, dans une petite maison à Kyoto. Donc c'est vraiment une aventure qui est toujours incroyable, mais encore plus en ce moment. et que je partage avec vous. Enfin, ça fait partie de toute cette passion qu'on partage ensemble. Je sais que sur les réseaux sociaux, sur Slack, on passe beaucoup de temps ensemble. Et ça fait aussi partie de tout ça, de toute cette communauté qu'on construit ensemble. Donc, ça a encore plus aujourd'hui que toutes les autres semaines un petit goût particulier pour moi, et ce petit goût, c'est encore plus de comment dire, de remerciement, de thankfulness, de reconnaissance, voilà, je trouve le terme, l'émotion me perturbe, de reconnaissance envers vous tous et envers cette communauté qui me soutient. Donc voilà, un immense merci. Et entre parenthèses, pour tous ceux qui sont allés mettre des reviews et des notes sur iTunes, un immense merci aussi. Max Woos dit que l'émission est enrichissante et fun. Dwayne James dit qu'elle est incontournable. Darkland dit que c'est sympa. Atis Zero que c'est génial. Et Paige, qu'on connaît bien sur le Slack et sur le Reddit, dit que c'est un très bon podcast. Dont il ne se lasse jamais. Merci à vous tous, merci à tous les patriotes. Je m'arrête là, vous savez ce que je pense. Pour vraiment partager tout ça ensemble, moi je fais tout mon possible, donc Facebook, Twitter, etc., etc. Vous avez tous les moyens de me suivre un petit peu partout. J'essaye de vous rendre tout cet amour que vous envoyez vers moi. Donc je fais de mon mieux, j'espère que ça vous plaît, et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez, que vous soyez d'ailleurs patriote ou pas, hein. Vous savez que tout est disponible pour tout le monde, donc voilà, à part le Slack bien sûr, qui est une petite communauté privilégiée que j'apprécie particulièrement. Bon, bref, on continue avec les news et les rumeurs, et je vais faire une toute petite pause pour boire un peu et me rafraîchir la gorge. Un très bon coca japonais. les news et les rumeurs, on en a une petite quantité aussi, et notamment l'affaire du droit à l'oubli qui est toujours en cours, avec une sorte de combat entre les instances françaises et européennes et Google. Vous savez bien que le droit à l'oubli, c'est cette possibilité qu'on a de faire une demande à Google de retirer certains liens des résultats de recherche. Et notamment quand on a des liens qui font état de certaines choses dont on ne veut plus qu'elles apparaissent publiquement, on peut envoyer une demande à Google qui va faire retirer ces liens. Mais là arrive la complexité de l'Internet mondial, puisqu'il est vraiment global. Et donc, jusqu'ici, Google retirait les résultats sur le site du pays où avait été fait la demande. Par exemple, Patrick Béja, en 1993, est allé danser nu au milieu des Champs-Élysées. Il y a eu quelques photos qui ont été prises. Et moi, je me dis, oula, ça attaque un petit peu, ça décrédibilise mon sérieux de podcasteur. Donc, j'envoie une requête à Google. S'il vous plaît, retirez les liens vers ces images-là. Google ne les retire que pour la France et que sur google.fr. Alors, les autorités disaient ça va pas assez loin, parce que n'importe qui d'autre qui serait enfin, il suffit pour quelqu'un d'aller sur google.com et il pourrait avoir ces informations. Alors là, Google dit oui, d'accord, mais on voudrait pas avoir à retirer de tous les noms de domaine de Google de tous les pays un lien parce que quelqu'un en France nous a demandé de le retirer. C'est compliqué, et comme on le dit souvent, ça pourrait vouloir dire que n'importe quel pays, par exemple la Chine, va dire bah cette histoire là, ce lien vers cet article, ça nous plaît pas. Donc Google, vous allez être gentil de le retirer de vos résultats de recherche dans tous les pays du monde. Donc c'est un petit peu comme effacer un article du web, parce qu'on sait très bien que Google, de fait, est le moteur de recherche prioritaire du web, et donc c'est de cette manière que la plupart des gens obtiennent leurs informations. Donc ça, c'est le problème. Google essaye de trouver un équilibre avec tout ça. Alors la dernière chose qu'ils ont fait, c'est que Ce qu'ils ont dit, c'est que si une adresse IP est identifiée comme venant du pays d'où la demande a été faite, eh bien, ce résultat n'apparaîtra nulle part, même si la personne qui fait la recherche va sur un autre nom de domaine de Google d'un autre pays. Donc, par exemple, Patrick a fait cette demande depuis la France pour retirer les photos de cette fameuse nuit maudite de 1993. Elle n'a pas existé, hein, ne vous excitez pas, ça n'est pas arrivé. C'est juste un exemple. Mais bon, la nuit maudite de 1993, j'ai demandé qu'on retire les photos, eh bien Jérôme, au hasard Jérôme K, va aller faire des recherches sur internet. S'il est en France, eh bien il ne pourra la trouver nulle part, même s'il va sur google.com américain, google.co.uk en Angleterre, google.cn pour la Chine. Eh bien il ne le verra plus, parce que lui, il a une adresse IP qui est en France. Mais là, bien sûr, les plus malins d'entre vous se disent, bah oui, mais il suffit de passer par un VPN. Je vais moi m'identifier comme ayant une adresse IP américaine. Je fais ma recherche sur google.com et là, je peux avoir ces résultats. Et évidemment, c'est tout à fait le cas. Et la CNIL a imposé une amende de 100 000 euros à Google. Alors ça va pas leur faire très très mal, mais c'est quand même symbolique. Parce qu'ils disent que Google ne va pas assez loin avec ce géo-blocage qui identifie les gens en fonction du pays d'où ils font les recherches, puisqu'ils spécifient, hein, ils expliquent très spécifiquement, d'une part, avec un VPN, c'est facilement contournable, et puis en plus, quelqu'un qui habite dans un autre pays va avoir accès à ces mêmes informations. Et là, c'est tout le cœur du problème. Comme je le disais, c'est très compliqué de trouver la bonne solution, puisque effectivement, ce que dit la CNIL, on peut le comprendre, mais d'un autre côté, si on va trop loin dans cette direction, on pourrait avoir des... Si le standard est que n'importe qui peut demander à Google de faire disparaître un résultat de recherche du monde entier, c'est un outil de censure incroyablement puissant, donc on ne veut pas aller jusque-là. Il y a aussi, moi, ce que je dis depuis le début, le problème, ce qui est qu'on demande à Google de décider quelles demandes sont valides et quelles demandes ne sont pas valides. Ça, c'est encore autre chose, mais bref, on n'a toujours pas de solution à ça. C'est toujours un point d'achoppement entre Google et les autorités. Moi, je suis vraiment pas pour l'idée que... je comprends tout à fait le fait que on ne veut pas être défini par un vieux truc qu'on a fait il y a 20 ans qui n'a plus aucun rapport avec la personne qu'on est aujourd'hui. Mais c'est quand même compliqué de se dire, du coup, on veut que ça disparaisse du web. Alors, bien sûr, de Google, mais on sait bien que Google est un moyen d'information important. Donc, il n'y a pas de réponse. Là, c'est juste une nouvelle évolution. La CNIL n'est pas satisfaite de ce géoblocage. J'aurais pu faire cette explication en 30 secondes si j'avais pas dû reprendre tous les points, mais je pense que c'est bien aussi de réexpliquer tout dans le détail, parce que les détails sont ce qui fait que la question est tellement compliquée. Une autre question qui est un petit peu compliquée, c'est la question du fibre, de la fibre et de la dénomination de la fibre. On sait que Numéricable a des connexions fibrées d'un certain type qui font que la fibre arrive jusqu'à votre immeuble, mais ensuite c'est un câble coaxial qui arrive jusqu'à votre appartement lui-même. Et donc c'est pas, entre guillemets, de la vraie fibre. Moi, j'ai trouvé des vitesses, j'avais cette connexion qui montait jusqu'à, je sais plus, 400 ou 800 mégabits seconde. Donc pour moi, c'est... À mon sens, la connexion qui s'appelle Fiber to the Home ou Fiber to the FTTH ou FTT, ah là là, je sais plus. C'est un autre, Fiber to the Last Node, FTT. Je sais plus. Je suis en train de chercher Fiber to the X, donc c'est différents types de fiber. Bref, il y en a plein. FTTN, FTTH, FTTB, il y en a plein de différentes. Et FTTB, si je ne m'abuse, c'est ceux qu'utilisent les opérateurs comme Numericable. C'est le principal qui pose problème parce que il y a Orange qui a du FTTH qui amène la fibre jusqu'à votre appartement. Donc vous avez la meilleure vitesse possible, et qui a fait beaucoup d'investissements pour ça, qui exigerait qu'on fasse la différence entre guillemets la vraie fibre et la fausse fibre. Eh bien, aujourd'hui, il y a un arrêté qui est paru au Journal officiel qui va imposer à notamment SFR Numericable de faire cette différence et de préciser que la fibre est la fibre jusqu'à l'immeuble et pas jusqu'à votre appartement. Donc, bon, je pense que plus d'informations est toujours une bonne chose. Moi, j'ai trouvé que les vitesses de la fibre de ce type-là étaient vraiment satisfaisantes, mais il n'empêche que je suis d'accord, il faut quand même qu'on ait la bonne information pour pouvoir juger en connaissance de cause. Orange, Bouygues Télécom, l'affaire continue. On n'a toujours pas le résultat final. Est-ce que l'un va racheter l'autre? Comment? On sait toujours pas. A priori, les négociations continuent. Elles ont été un petit peu prolongées. Mais ça continue à être possible. Il semblerait qu'on soit très très proche du résultat. Hein. La semaine dernière, on semblait avoir un accord et puis finalement, ça a été décalé de quelques jours. On aura les résultats très bientôt, a priori, et ça devrait se faire, mais c'est pas encore le cas. Toujours dans les affaires mi-gouvernementales, mi-pas gouvernementales. Aïe, ah, mon genou, ah, je suis resté. Ah, les dangers du podcasting. Attendez, il va falloir que je bouge un petit peu là. Mes genoux, je suis désolé, hein, c'est le podcast un petit peu roots à l'ancienne. Alors, on rebouge le micro pour changer de position. Voilà. Hop. Bon, j'ai un petit peu moins mal aux genoux, ça devrait aller. Donc, comme je disais, les affaires semi-gouvernementales, on a le.taxi, qui est un site qui est, en gros, le service à la Uber pour les taxis. Et moi, ce service me pose un petit problème, comme le fait remarquer l'article que j'ai retenu dans l'informaticien. C'est un service qui est finalement assez bon, qui émule les types de fonctionnement d'Uber, et c'est un service qui est, c'est un service qui propose des connexions à des développeurs d'app pour connecter tout le monde ensemble. Donc, c'est pas le service qui lui-même propose une app, mais il y a d'autres apps qui se connectent au service et les chauffeurs de taxi ou les sociétés de taxi peuvent se connecter au service et donc ça permet de créer des apps de type Uber pour tout le monde et pour les taxis. Et le service, donc, comme je le disais, est pas mal. Il y a à mon sens un petit souci qui est que les taxis ne sont pas tenus d'avoir de paiement en carte bancaire, qui me pose problème parce que d'une part, c'est pas pratique. Et d'autre part, ce qu'on dit souvent sur ce type de choses, la raison pour laquelle les taxis n'acceptent pas les cartes bancaires, c'est plus facile à gérer en cash, on va dire, pour tout ce qui est taxes, qu'en carte bancaire où tout est traçable. Et bon, c'est un secret de polichinelle, c'est aussi pour ça qu'ils le font. J'essaye de rester neutre, mais c'est a priori avéré. Mais bon, c'est un détail. Le service est quand même bon. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que c'est l'État qui a payé pour la constitution de ce service. Et il a coûté 250 000 euros à développer et il va coûter 500 000 euros par an à maintenir. Et enfin, moi, ça me gêne vraiment parce que pourquoi est-ce que, a priori, les services ne sont pas un service public, les taxis ne sont pas un service public. Pour quelle raison est-ce que le contribuable est en train de payer pour ce service qui, rappelons-le, n'existe que pour contrer Uber, qui est venu s'insérer dans une faille, qu'on soit pour ou contre Uber. Il y avait un vrai besoin de modernisation de l'industrie des taxis. Et les taxis ne l'ont pas fait, cette modernisation de leur service, parce qu'ils avaient un monopole de facto et pour tout un tas de raisons. Et du coup, Uber est arrivé et a créé tous les problèmes qu'on sait. Ok, à ce moment, alors les sociétés de taxi se mettent ensemble, se rendent compte qu'il y a un problème, se rendent compte qu'il y a un besoin de modernisation et créent un service de ce type. Ça, très bien. Mais pourquoi est-ce que l'État a créé ce service et pourquoi est-ce que nous payons ce service, nous, contribuables? J'ai beau être au Japon, j'ai beau être parfois en Finlande, je suis toujours un contribuable français. Donc, ça me touche moi aussi et je sais pas, moi, ça me paraît hallucinant que l'État paye pour ce manquement de l'industrie du taxi. Ça, surtout que, entre parenthèses, nous payons avec nos taxes. Et c'est là que je reviens à cette question de carte bleue. Ils ne sont pas tenus d'avoir une carte bleue, donc les transactions ne sont pas traçables. Enfin, moi, c'est pas le scandale de l'année. Je suis sûr qu'il y en a des plus grands, mais ça me choque un petit peu quand même. Je comprends pas les raisons pour lesquelles, au moins, quel que soit notre avis sur Uber, ce ne sont pas les sociétés de taxi qui ont créé une coalition, si besoin, enfin un organisme de leur industrie pour créer ce service-là. Moi, ça me choque. Voilà. On parlait il n'y a pas si longtemps de services de streaming. Une petite news pour vous informer que Google serait, semble-t-il, en train de développer un service type Periscope de live streaming. On parlait de services de live streaming hein, avec Jérôme, vous vous en souvenez, avec Jérôme et Jeff. Eh bien, il y aurait une application qui s'appellerait YouTube Connect pour iOS et Android qui serait développée par Google pour faire exactement ce que fait Periscope. Donc, décidément, c'est vraiment une tendance importante, cette histoire de live streaming. Après Twitter et Facebook, il y a aussi Google qui se lance là-dedans. À propos de réseaux sociaux, une étude de Comscore, qui est un organisme d'études d'audience, a indiqué que les millennials, vous savez, les gens qui sont nés autour de l'an 2000, passeraient encore 2,5 fois plus de temps sur Facebook que sur Snapchat qui est son concurrent le plus proche. Et c'est très intéressant parce qu'on dit souvent que les jeunes, vous savez, les jeunes, ils passent énormément de temps sur Snapchat aujourd'hui et ils délaissent Facebook. Eh bien, cette étude semblerait démonter cette idée reçue. Oui, Snapchat fonctionne beaucoup mieux que d'autres réseaux. C'est, alors, un petit peu mieux que Instagram. Enfin, ça dépend comment on prend le graphe. Mais il y a une bonne partie des utilisateurs qui l'utilisent pas mal. Instagram, il y a une plus grande partie des utilisateurs qui l'utilisent encore. Mais c'est Facebook et au-delà de tout ce qu'on connaît, à la fois dans le pourcentage de gens qui l'utilisent, on est proche de 100%, et dans la quantité de temps passé, dans l'engagement, comme on dit en anglais. Donc, on est à 2,5 fois Snapchat. Donc, c'est important de garder peut-être, et je le dis pour moi aussi, c'est peut-être important de se souvenir parfois que tant qu'on n'a pas des chiffres spécifiques, on ne fait que spéculer quand on a l'impression que les jeunes sont tous sur Snapchat et abandonnent totalement Facebook. Sur le subreddit, Jean Coco nous a mis un lien vers un sujet qui a fait un petit peu de bruit, c'est l'idée que Intel a admis qu'ils ne vont plus pouvoir suivre leur procédé TikTok, qui est un cycle où ils développaient chaque année un nouveau type de processeur avec en alternance, un petit peu comme le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, hein, chaque semaine il y a une alternance, ils développaient donc un nouveau type de processeur avec une année, une nouvelle architecture et une année, une nouvelle finesse de gravure. Et il menait ce rythme depuis, je sais plus, peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, 10 ans, 15 ans. Et c'était un rythme qui était un petit peu effrénés. Et là, ils vont passer à un cycle de 3 ans où ils auront nouvelle finesse de gravure, nouvelle architecture et raffinement de cette architecture. Donc voilà, ça se ralentit un petit peu. On se souvient que c'est la loi de Moore qui est en danger. La loi de Moore disant que tous les 18 mois, le coût de la puissance de calcul est divisée par 2, eh bien là, on se demande si ça va pouvoir continuer. On arrive peut-être aux limites de la loi de Moore. On le dit depuis des années, donc je vous avoue que je ne suis pas non plus totalement convaincu que ça va arriver. Le streaming a dépassé en revenus les ventes numériques pour la première fois. C'est la première année en 2015 que le streaming rapporte plus que l'argent. On parle de musique, hein, bien sûr. Ça me paraissait évident, mais je le précise. C'est la première fois que le streaming rapporte plus. Bien sûr, qu'a fait l'industrie, au lieu de se dire, eh ben super, ça y est, le streaming est enfin devenu un modèle de revenu qui pourrait rapporter de l'argent, eh bien ils se sont plaints que les ventes numériques rapportaient moins. Alors c'est un petit peu ce qu'on entend systématiquement depuis des années, et je crois que malheureusement la seule chose qui ne change pas, c'est que ceux qui gagnent de l'argent dans tout ça, bah c'est plus les sociétés de les labels et les producteurs que les artistes eux-mêmes. Quand on voit l'argent que gagnent les artistes sur le streaming, c'est une impression qui me semble assez justifiée. Sony a créé une société qui va formellement développer des jeux pour iOS et Android. Avec Nintendo qui s'y met, on a eu aussi une news que Capcom, un autre développeur de jeux très connu, hein, de jeux de gamers classiques comme Street Fighter ou Resident Evil, Biohazard, etc. Ils vont s'y mettre aussi. On est peut-être en train de voir enfin que les vrais développeurs de jeux sérieux s'intéressent au mobile. Et je dis enfin parce que, enfin, moi j'espère qu'ils vont développer des vrais jeux de gamers et qu'on va pouvoir avoir, en plus de tous ces jeux free-to-play qui sont parfois bon et généralement plus des pertes de temps littérales. Et donc, on aura en parallèle de tout ça peut-être des vrais jeux de gamers, enfin, un petit peu plus qu'on en a aujourd'hui. C'est ce que j'espère en tout cas. Quoi d'autre ? Les casques de réalité virtuelle sont enfin disponibles. Enfin, l'Oculus Rift est enfin disponible et le HTC Vive arrive. On en parlait la dernière fois. On est évidemment au début. Il y a des petits soucis d'approvisionnement visiblement, mais ils sont vraiment en train d'arriver. Je voulais quand même le mentionner. Sony, encore eux, a dit qu'ils pensaient peut-être rendre leur PlayStation VR compatible avec les PC. Bon, c'est très très doux comme évocation. Ils disent ça, ils peuvent tout à fait ne jamais le faire. Ça changera rien du tout à rien du tout. Mais je pense qu'ils vont attendre de voir comment ça se vend sur PlayStation, si ça vend des PlayStation, et peut-être que s'ils ont besoin de donner un petit coup de boost, ils le rendront aussi compatible PC, ce qui serait plutôt une bonne chose, je pense, pour tout le monde, parce que ça donnerait une alternative un petit peu moins chère encore aux autres casques de réalité virtuelle. Bon, on verra. Des vignerons, tiens, il nous a mis un lien vers un rapport selon lequel les voitures autonomes sont enfin légalisées. C'est-à-dire que jusqu'ici, les voitures autonomes n'étaient pas légales du tout. Alors que je retrouve l'institution en question. Une modification de la Convention de Vienne, le 23 mars, elle a été effectuée. C'est une convention qui fixe les règles de la circulation des véhicules entre les pays. Et aujourd'hui, elle autorise enfin, sous certaines conditions bien sûr, les voitures autonomes. Il faut qu'il y ait un système qui peut être activé ou désactivé par le conducteur. C'est le genre de choses qu'on voit dans les pays qui se sont intéressés aux voitures autonomes déjà, aux États-Unis notamment. Voilà, c'est enfin légalisé au niveau international, donc on va pouvoir s'y mettre pour de vrai. On avait évoqué la keynote Apple la dernière fois et on disait qu'on savait à peu près tout sur ce qui allait être annoncé. Eh bien, c'était plutôt le cas, hein. On a vu assez juste, enfin, on a vu, les rumeurs étaient avérées. Je voulais juste évoquer le fait que Apple a été assez politique sur cette keynote, un petit peu comme Satya Nadella à la conférence Build, comme je l'évoquais. Ils ont parlé, bien sûr, du FBI, ils ont aussi parlé d'environnement et de recyclage, et moi, c'est un truc qui m'a marqué, parce qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent et qui, à mon sens, est louable, même si c'est une société qui le fait et qui a des prétentions commerciales. Ils ont dit, par exemple, que 93%, je crois, de leur énergie, de leur centre de données, était de l'énergie renouvelable. Et dans beaucoup de pays, c'était à 100%, notamment, je crois, la France. Je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas, les États-Unis et la Chine. Et c'est louable comme ça, a priori, mais ce qu'ils ont dit qui rend la chose complètement tangible pour tous les utilisateurs, c'est qu'ils ont dit, vous pouvez vous dire que quand vous envoyez un iMessage, quand vous faites une recherche sur l'App Store, quand vous téléchargez une app, vous pouvez vous dire que vous utilisez de l'énergie renouvelable avec votre appareil. Et alors, bien sûr, c'est marketing, mais en même temps, marketing, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Et moi, ça m'a vraiment parlé. C'est peut-être un autre moyen de se justifier la taxe Apple, de me dire, quand j'utilise mon iPhone, j'utilise un service qui est plus renouvelable que les autres. Alors, il faudra que ça soit confirmé par les organismes non gouvernementaux, je sais pas, Greenpeace, etc., WWF, mais si c'est bien le cas, pour moi, c'est un vrai argument, et c'est un argument pourquoi ? Parce que, en tant que société commerciale, et peut-être par des convictions personnelles de Tim Cook et de d'autres membres de la société, et aussi pour des arguments commerciaux, parce que les acheteurs pensent que c'est important, ils attachent une certaine importance à ce sujet. Pour moi, c'est très positif et moi, ça me parle. Et j'ai trouvé ça, en plus, effectivement, commercialement très intelligent d'appuyer là-dessus. Donc, je voulais le mentionner parce que ça, c'était un aspect, évidemment, qu'on n'avait pas vu venir quand on en parlait la dernière fois. Tant qu'on est dans les rumeurs Apple, les rapports sur les prochains iPhones font état d'un iPhone vraiment différent en 2017. C'est-à-dire que cette année, le nouvel iPhone serait a priori relativement sage au niveau des changements. Mais par contre, en 2017, on aurait un design qui reviendrait au vert des deux côtés, comme l'iPhone 4, avec un écran AMOLED et un écran de taille encore plus importante, mais en gardant la même taille du châssis. Un petit peu comme on voit certains téléphones Android, ils ont des écrans plus grands en restant de même taille, voire plus petit que l'équivalent chez iOS, puisque le cadre est plus petit. Donc voilà, on reviendrait à un design type iPhone 4 avec du vert des deux côtés et des écrans plus grands. Ça serait pour 2017. En 2016, ça serait, comme on l'évoquait il y a quelque temps, un redesign assez sage pour l'iPhone 7. Il serait presque comparable à l'iPhone 6 et 6S. Donc, est-ce que ça serait même un iPhone 6X ou 6... comment on pourrait l'appeler ? 6P ? 6Q ? Je sais pas. Donnez-moi vos suggestions sur frenchspin.fr dans les commentaires. Je suis sûr que vous aurez des justifications pour la lettre tout à fait hilarante. Et enfin, avant de se quitter, on ne pouvait pas ne pas évoquer le 1er avril qui a eu lieu il y a quelques jours à peine, bien sûr, avec son lot de plaisanteries hilarantes sur le web. Il y a eu notamment Jean Coco, encore lui, a évoqué un article. Je ne sais pas s'il sait que c'était un article d'un ami et d'un contributeur et d'un patriote, à savoir Kassim, qui a fait l'un des meilleurs l'une des meilleures news de 1er avril, à mon sens, qui était vraiment drôle pour le coup, sur le site sur lequel il officie, Frawin, où il a titré « Microsoft présente Satya as a service, le CEO universel pour aider Apple et Google », où il a écrit un long article où il évoque la volonté de Satya Nadella d'être complètement agnostique de système d'exploitation et d'avoir des choses qui sont disponibles sur tous les systèmes. Et en l'occurrence, c'était donc Satya, le CEO as a service, qui était disponible pour tout type de société, tout type de service, et qui serait disponible très bientôt en bêta-test pour les autres sociétés qui voudraient l'utiliser. J'ai trouvé ça super drôle. Je ne sais pas si ça vous fera marrer, mais moi, je l'ai trouvé super bien trouvé, justement, parce que Satya est devenu une telle star dans les milieux tech. La Satya Mania est complètement la Satya Mania est partout. J'ai trouvé ça très intelligent et en plus c'était Kassim, donc bravo à lui. Et notre Mika, qui est toujours très actif sur le Reddit, nous a évoqué la news selon laquelle, souvenons-nous que Windows va intégrer Bash, l'un des éléments essentiels de Linux, et il a mis sur le Reddit la news du 1er avril de chez Corben, selon laquelle, après Microsoft, c'est au tour de Canonical d'annoncer du lourd, c'est-à-dire que dans Ubuntu, qui est la version Unix développée par Canonical, il y aurait un émulateur Windows 10 par défaut qui permettrait de faire tourner toutes les applications Windows 10. Alors je ne sais pas si NotMika s'est rendu compte que c'était le 1er avril, enfin si, j'en suis à peu près sûr parce que c'est tellement gros, évidemment, c'était un 1er avril et moi... Quand je l'ai vu, j'ai vu la news passer, l'espace d'un instant, je me suis dit mais ça serait tellement fort. Et puis en fait, bien sûr, j'ai compris que c'était le 1er avril quelques secondes plus tard, mais l'espace d'un instant, j'ai eu ma respiration s'est coupée parce que ça serait tellement excellent. Et enfin, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer l'énorme fail de Google avec sa plaisanterie du 1er avril sur Gmail, qui était le Gmail Mic Drop, qui faisait quelque chose de complètement débile, c'est-à-dire que c'était une option pour envoyer votre email avec le Mic Drop. Le mic drop, c'est quoi ? C'est cette pratique qui existe à la base dans le rap, les rap battles américaines, où quand un rappeur a dit un truc tellement fort qu'il pense que il peut s'arrêter là et il a même plus besoin de continuer, il lâche son micro. Ça s'appelle un mic drop. Donc c'est genre c'est bon, maintenant j'ai fait tellement fort que la discussion est terminée, la bataille est terminée, j'ai gagné. Eh bien, c'est devenu une expression classique, le mic drop, dans les conversations, dans les plaisanteries, dans les échanges par mail, par réseaux sociaux, etc. Et là, ils avaient cette option, le mic drop, qui, au lieu d'envoyer un mail, ajoutait une petite gif de mic drop dans votre mail et mettez ensuite tous les utilisateurs, enfin tous les gens qui étaient dans la liste de personnes à qui vous expédiez le mail en mute. Donc, vous envoyez un mail, vous avez le mic drop et vous ne voyez plus les réponses de qui que ce soit dans le thread. Et le problème principal, c'est que cette option était juste à côté du bouton envoyer et d'une couleur différente avec un petit truc, mais quand même, il était tout à fait possible de cliquer dessus sans s'en rendre compte. C'était complètement irresponsable de leur part, et à tel point que il y a eu des gens, visiblement, au moins une personne, qui a envoyé ce truc par erreur et qui s'est faite virer parce que, bien sûr, il y a plein de gens qui utilisent Gmail pour leur boulot. Et quand tu, il y a forcément une ou deux personnes à qui ça va arriver dans un cadre hyper sérieux. Donc vous imaginez, vous êtes en train de discuter d'une affaire hyper importante avec un groupe de travail, avec votre manager en copie et son manager en copie. Et là, au lieu d'envoyer votre mail, votre réponse super sérieuse, eh bien vous envoyez ce truc avec un gif débile d'un mignon qui lâche son micro. Et en plus, vous ne voyez même plus les réponses des gens qui disent mais. Patrick, enfin, je sais que tu aimes bien Internet, mais là, on était quand même en train de parler d'un projet important. Est-ce que tu pourrais éviter d'envoyer des gifs comme ça ? Eh ben, vous voyez même pas la réponse. C'est, enfin, bref, ils ont immédiatement, au bout de quelques heures, annulé leur truc en s'excusant platement, bien sûr. Mais c'était quand même très très drôle, comme, enfin, c'était très drôle à moins d'être le type qui s'est fait renvoyer, évidemment. Donc, bon. Voilà, c'est à peu près tout pour les news et j'espère que ce 1er avril n'a pas été trop cruel pour vous. Moi, en tout cas, le 1er avril s'est passé dans l'avion et puis à essayer de dormir sans vraiment y réussir, mais ensuite dans les rues de Kyoto. Donc, enfin, je suis arrivé le 2 finalement, donc c'était il y a deux jours. Mais ça s'est donc très bien passé et puis ce mois d'avril commence très bien. J'espère que cet épisode solo, comme je le disais, il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps. Et puis c'est vraiment exceptionnel, mais j'espère que cet épisode vous aura plu. On reviendra évidemment avec les épisodes normaux quand j'aurai eu un petit peu le temps de dormir et de m'organiser pour les enregistrements depuis le Japon. Ça devrait très bien se passer parce que le décalage horaire est relativement facile à gérer dans ce sens-là. Donc voilà, ça reviendra très bientôt. Et venez me dire sur les commentaires du Rendez-vous Tech ce que vous avez pensé de cet épisode. Comme toujours, on est toujours intéressé par la discussion et les retours. Si ça vous a plu, si ça vous a moins plu, je serais curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Et puis en tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de passer ce petit moment privilégié avec vous, tout seul dans vos oreilles, juste entre nous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Facebook. Je suis @notepatrick. Je crois que je suis @notepatrick sur Instagram aussi. Je poste des photos régulièrement en ce moment puisque je suis au Japon. Je l'ai dit 12 fois, vous commencerez à le retenir. Et puis, vous pouvez évidemment venir sur frenchspin.fr pour les notes de l'émission et laisser des commentaires. Et vous avez d'autres émissions aussi. Évidemment, on ne vous abandonne pas. Il y a les émissions qui continuent tout à fait normalement, c'est-à-dire qu'il y a Upload, il y a Positron qui continue. Il y aura aussi le rendez-vous jeu qui va arriver la semaine prochaine sans interruption. Donc, voilà, tout est toujours disponible sur frenchspin.fr. Si vous voulez contribuer financièrement à l'émission, c'est patreon.com/rdvtech, vous le connaissez. Il y a eu quelques petits problèmes, pas administratifs, mais techniques sur Patreon en début de mois, mais là, c'est visiblement réglé. Par contre, si vous avez un avis de... si vous recevez bien, encore une fois, un avis de paiement qui ne passe pas, allez reconfirmer votre méthode de paiement sur patreon.com, ça serait cool parce qu'il y a un petit pourcentage un petit peu important de personnes qui moyens de paiement qui sont bloqués. Donc ça serait sympa de votre part. Et puis voilà, dans tous les cas, j'espère que vous viendrez suivre mes aventures nippones sur les réseaux sociaux. Et puis quoi qu'il arrive, on se retrouve pour un épisode un petit peu plus classique dans deux semaines. Comme toujours, je vous remercie très chaleureusement d'avoir suivi l'émission. Et je vous donne donc rendez-vous dans deux semaines. Ciao à tous et des bises.